Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, on est le 11. Eh bien, c'est le dernier jour du blocage sur Facebook, Révélation Bible. Demain, je suis débloqué. Donc, nous mettrons la prédication de ce matin, demain matin. Et je voudrais encore vous redire que, vu la politique de Facebook qui bloque pour un oui ou pour un non, je vous recommande d'aller sur mon site directement, révélationbible.fr, de vous inscrire à la newsletter. C'est très facile. Et vous recevrez un mail de confirmation, vous cliquerez sur cette confirmation et vous recevrez chaque semaine, chaque jour, même s'il y a des choses nouvelles, de nouvelles, et comme ça vous serez tenu au courant et on n'aura plus besoin de Facebook. On va continuer avec Facebook, mais la prochaine fois qu'il nous bloque, on arrêtera définitivement, parce que ça fait déjà deux fois cette année qu'il me bloque pour 30 jours, ça fait quand même 60 jours en un an, c'est beaucoup. Et je trouve que c'est de l'intolérance totale quand on voit les horreurs qui passent sur Facebook. Et voilà, il faut pas me faire croire que c'est des algorithmes qui me bloquent, que ce sont des gens qui n'aiment pas l'évangile et qui me signalent, qui disent certainement des choses très désagréables. Alors je crois qu'à partir d'un certain nombre de personnes qui disent du mal, alors vous êtes automatiquement bloqué. Comme ça ne m'amuse pas, ben on va s'arrêter, c'est tout simple. On a suffisamment de personnes déjà qui viennent sur révélationbible.fr, Révélation Bible sans accent, hein. révélationbible.fr, on n'a plus besoin de Facebook, on va continuer parce qu'on est gentil, mais on n'est quand même pas des masos non plus. Voilà, à part ça, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons mettre très prochainement, je pense dans les jours qui viennent, mon livre « Comment j'ai été guéri du cancer » sur révélationbible.fr, justement, vous allez pouvoir lire ça. Je l'ai raccourci parce qu'il y avait des longueurs et il n'y a que 119 pages à la place de 130. Et il y a beaucoup de photos, par contre, il y a des tas de photos. Et puis, après, d'ici peut-être à la fin de l'année, vous aurez l'oracle revu et corrigé. Mais là, il fera 900 et quelques pages, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages en plus, des choses qui me sont revenues à la mémoire, dont je ne me souvenais plus, puis en y réfléchissant, en pensant, en parlant avec les frères et sœurs, ça m'est revenu, donc j'ai écrit tout ça, il y a plus de 1000 pages. Voilà, donc, comme ça c'est des bonnes nouvelles, et vous allez pouvoir lire tout ça, et c'est pas simplement une histoire qui est racontée, mais c'est aussi, il y a des enseignements dedans qui font que ça va pouvoir vous aider quand vous êtes, suivant les problèmes que vous rencontrez, ça va pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va commencer par une lecture dans Luc chapitre 12, verset 2. Alors, Luc 12, 2. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ça, c'est aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Voilà. Si Dieu pense comme ça, nous devons penser comme ça aussi. Est-ce que vous savez que nous possédons tous, en nous, au fond de notre âme, une carpette, un tapis? Une carpette qui, paraît-il, possède une certaine sagesse, une certaine intelligence, et tout ce qu'il nous faut pour favoriser une bonne vie, voilà, une carpette. Alors, je vais développer ça, mais je vais prier d'abord pour que le Seigneur nous conduise. Merci Jésus de nous conduire et de nous aider à bien comprendre ce que nous devons faire dans des situations difficiles. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. En 71 ans de vie terrestre, j'ai constaté que c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Eh bien, de se servir de la carpette. On en a tous une, mais c'est pas bien de s'en servir. J'observais, parce que nous sommes à la campagne, que pendant la saison de la chasse, les lapins possédaient au fond d'eux-mêmes autre chose qu'une carpette. Peut-être qu'ils ont aussi une carpette, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont un ressort. Ils ont un ressort, c'est-à-dire qu'ils fuient les chasseurs, ils ne se posent pas de questions, ils sont dans l'action, ils sont dans la sagesse. Ils pourraient très bien dire « Oh ben non, c'est pas grave, bon ça m'ennuie, ça me stresse et tout, mais je mets tout ça sous la carpette. Hein, » vous connaissez ? On soulève le tapis puis on met dessous, mais c'est toujours là. Chez nous les humains, la sagesse, elle se développe au fil de nos difficultés. C'est pas en lisant les bouquins. En lisant des bouquins, on peut, voilà, trouver des belles phrases, mais c'est surtout en vivant. Les bouquins, ensuite, peuvent nous aider à mettre des mots, n'est-ce pas ? Mais la sagesse qui nous aide vraiment, c'est un ressort. Et nous avons tous, en nous aussi, au fond de notre âme, un ressort. On a des deux. On a les deux choses, on a une carpette, on a un ressort. Au quotidien, et c'est viscéralement naturel d'avoir un ressort en nous, et d'avoir aussi une carpette, on a le choix. Cette sagesse, elle nous indique le chemin à suivre pour nous sortir de bien des situations pénibles. Alors on va voir ça. Le propre de cette sagesse, c'est d'être dans le mouvement. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », vous pouvez avoir un chemin, mais tant que vous ne vous mettez pas en marche, tant que vous ne vous mettez pas en mouvement, ce chemin, ça n'a pas grand-chose. Je vous disais dernièrement que nous avons tous un côté négatif et un côté positif. Il y a des pensées positives, il y a des pensées négatives, il y a des faits positifs, il y a des faits négatifs. Et ce que nous appelons positif, c'est ce qui nous conforte dans notre état. Par exemple, vous allez écrire des commentaires en dessous de ma prédication, qui va de nouveau être publiée sur Facebook, et je vous trouverai très positif, si vous êtes d'accord avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors on est déconcerté, n'est-ce pas? On est décontenancé par le... On est désarçonné par le négatif. Nous ne sommes pas d'accord, donc c'est négatif. Ben, pas toujours. Pas toujours. Dans notre entendement primaire, le négatif est déstabilisant, donc à éliminer. Mettre sous la moquette, sous la carpette. La douleur, l'angoisse, le stress, le désarroi, sous la carpette. Tout ça, c'est négatif. Ça ne fait pas de bien, c'est donc mal, alors sous le tapis. Savez-vous ce que c'est qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est une représentation du monde. C'est votre point de vue, c'est votre courant de pensée. Votre paradigme va toujours vous indiquer deux sorte de possibilité en toute situation. Votre point de vue va vous donner deux possibilités, toujours. Avec la carpette, c'est l'enfermement dans la douleur. Vous vous crispez sur elle, vous savez que c'est là, ça peut surgir, ça vous paralyse. Ou alors c'est le déni, nous faisons comme si tout allait bien, alors que tout va de travers. Bonjour mon frère, ça va ? Oui, ça va, alléluia, gloire à Dieu, carpette. Vous essayez de vous convaincre que c'est pas si grave au fond, c'est pas grave. Quelqu'un vous harcèle, quelqu'un vous n'est pas aimable avec vous, et vous essayez de positiver, et ça vous empêche d'agir pour mettre fin à ce malaise, à ce harcèlement, à ce manque d'amabilité. Et vous ne ferez pas comme le lapin qui, lui, il se taille, il fout le camp. Ou alors, vous n'allez pas trouver le geste qui pourrait conforter une amitié, parce que ça se détruit, mais bon, mais ça sous le tapis, oh, ben ça va s'arranger. Et bien, quand vous faites ça, vous vous fragilisez. Vous vous fragilisez. C'est mettre sous la carpette. C'est pas bien. Si vous avez quelqu'un chez vous qui fait le ménage et vous apercevez qu'il met la poussière sous la carpette, vous allez lui dire une fois, deux fois, puis après c'est vous changez, pas de carpette, mais de femme de ménage ou d'homme de ménage. Or, le processus du mouvement, ça favorise la vie. Chez nous, quand j'étais petit, on avait un poêle à charbon. Et un jour, j'ai posé ma main dessus, et bien la douleur, c'est-à-dire ce qui est négatif, cette douleur que j'ai ressentie, elle m'a signalé qu'il fallait que rapidement j'enlève ma main. Donc, dans le négatif, on peut trouver le ressort pour que ça devienne positif. Et j'ai appris quelque chose, il ne faut pas poser la main. Cette douleur a donc été salutaire. Mon grand-père, à cause d'un diabète qui était mal soigné, vous savez, dans les années 50, il faisait ce qu'il pouvait, c'était déjà pas mal, mais c'était pas ça encore, eh bien, il est devenu petit à petit insensible à la douleur aux extrémités, c'est-à-dire les doigts, les pieds, les mains. Et un jour, il a senti qu'il avait quelque chose dans sa chaussure, et il s'est assis, et il a regardé, il a enlevé la chaussure, il a vu que c'était pas dans la chaussure, il a enlevé la chaussette, et il a vu que c'était le gros orteil qui était tombé. Il s'était détaché à cause de la gangrène. Il ne le sentait pas. Je me rappelle, pour nous faire rire, il prenait deux gouttes de métal, il mettait dans la prise. Ça lui faisait pas mal. Ceux qui souffrent de l'insensibilité à la douleur ont une espérance de vie réduite. Alors évidemment, on ne va pas dire « Oh, merci Seigneur, j'ai des douleurs, c'est extraordinaire. » Non, mais si vous êtes démuni de ce signal d'alarme, c'est grave. C'est grave. Donc, il y a du négatif qui implique un moment d'inconfort, mais qui nous sauve, en fait. Quand on souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je connais une sœur qui a un zona en ce moment. Ce n'est pas le zona la raison, c'est la cause, le zona. Ce qui est la raison, c'est tous les soucis qu'elle emmagasine, qu'elle fout sous le tapis. Elle a des soucis, elle en a, elle me raconte tout, elle me parle de tout ce qu'elle... Elle met tout ça sous le tapis, c'est-à-dire elle fait comme si tout allait bien. Elle essaie de positiver. Il faut pas, il faut mettre la lumière dessus, remettre ça au pied de la croix, fuir toutes ces choses négatives, mauvaises. Parce que sinon, ça vous ruine la santé. Ça nous permet de trouver des solutions. Ça nous permet, le fait de souffrir, le fait de, c'est un signal d'alarme qui nous permet de nous réinventer, d'être créatifs. C'est ce côté négatif qui nous signale qu'il vaut mieux fuir comme le lapin. Il faut mettre de la distance. Il ne faut pas tout emmagasiner sous votre tapis, sous votre carpette. Tout doit nous apprendre quelque chose et cela nous apprend à vivre plutôt qu'à survivre dans la tension. Donc la sagesse nous indique que la douleur, par exemple, eh bien c'est un cadeau que Dieu nous donne. Par exemple, la colère contre quelqu'un qui vous pourrit la vie, ça va vous donner la force de dénoncer la situation, de dénoncer des agissements. Ouais, mes parents, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voulais être Charlie Chaplin à la place de Charlie Chaplin, j'avais aucune ambition, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, et ils m'ont mis chez un patron, un ensemblier décorateur, le meilleur de Lausanne, et j'ai fait un mois d'essai. Et là, pendant ce mois d'essai, mon père est décédé. Et pour pas déplaire à ma mère, pour pas lui faire de la peine, une peine supplémentaire, j'ai continué jusqu'au bout cet apprentissage d'un métier dont j'ai vu tout de suite que ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Et j'ai souffert pendant 3 ans et demi. J'ai mis sous la carpette cette souffrance pendant 3 ans et demi. Parce que je me suis vite, très vite aperçu que, mais à cause de ma maman, pour pas lui faire de la peine. Des fois, c'est pour pas faire de la peine aux autres qu'on met sous la carpette les problèmes. Rapidement, une fois que j'ai fini cet apprentissage et que j'ai réussi brillamment mon examen, eh bien, j'ai fui ce métier. Et j'ai fait ce que j'aimais. J'ai fait des études de théologie, ce qui m'a amené à avoir la belle vie que j'aime aujourd'hui. Voilà. Je ne voulais pas rester toute ma vie à faire l'ensemblier décorateur. J'aurais pu parce que j'étais doué, parce que j'ai réussi. J'étais le premier de ma section, on était 30 élèves. En pratique, ça va faire rigoler ceux qui me connaissent, parce qu'ils savent que je suis pas bricoleur. Mais quand j'apprends quelque chose, après l'avoir appris, je sais le faire et je peux le faire bien. Et là, mon patron, il m'a bien appris, je savais très bien, je connaissais très bien. Puis ça payait très bien. Vous savez, ensemblier décorateur en Suisse. Mais j'ai fait comme le lapin devant le chasseur. J'ai utilisé le ressort. Je me suis taillé. J'ai mis de la lumière sur ce qui n'allait pas, sur ce métier qui me déplaisait. J'ai mis franchement de la lumière dessus, au lieu de cacher ma peine, ma difficulté sous la carpette. Et c'est libérateur, mes frères et sœurs, de mettre de la lumière sur ce qui ne va pas. C'est libérateur. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il a dit aussi « Je suis la lumière ». Vous devez mettre ce processus en mouvement. Regardez-vous. Vous êtes ému d'émotions tristes, d'émotions négatives, vous vous sentez perdu, vous êtes au fond du trou, vous avez mal. Toutes ces réalités vous indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi qui ne va pas? Ajustez-vous, mettez de la lumière, analysez la chose, froidement. Ça m'est arrivé souvent de prendre acte de ce qui est. Je mets de la lumière là-dessus et je change ce qui ne va pas. Je casse la routine. Vous savez, j'ai eu une très très belle vie, à part ces 3 ans et demi d'ensemblier décorateur avec ma souffrance cachée sous le tapis. Mais dans cette belle vie que j'ai eue, après, il y a eu des choses qui ne sont plus valides. Il faut avoir le courage de reconnaître, c'est plus valide. Il y a des amitiés qui ne sont plus valides. Par exemple, bien sûr, je regrette, ça fait de la peine, mais je refuse qu'on me pourrisse la vie. Je ne veux pas. Je refuse qu'on ne me respecte pas. Je refuse. J'ai un ressort. Comme le lapin, je fuis le chasseur, voilà. Hein, c'est pas très courageux. Oui, quand on connaît le chasseur, on sait qu'il vient pour tuer le lapin, hein. Le lapin, il n'est pas bête, hein. Et il a bien raison de fuir. Il vous faut faire un diagnostic. Une fois que vous avez le diagnostic, que vous avez mis de la lumière pour regarder bien en face ce qui ne va pas, la sagesse est prête à vous accompagner dans l'étape suivante. Mais tant que vous ne faites pas la lumière, vous avez tout ça sous le tapis. Bon, de temps en temps, vous voyez le tapis, faites attention que je ne trébuche pas sur cette bosse là-dessus. Faites un petit contour chaque fois. Parce que... En 52 ans de vie chrétienne, mes frères et sœurs, ça fait 52 ans que je suis converti, j'ai réinventé mes repères très souvent. Premièrement, je voulais être pasteur pentecôtiste Assemblée de Dieu. 4 ans d'études, plus une année de formation. Puis j'ai vu que ça ne me plaisait pas. J'ai foutu le camp, je me suis taillé. J'ai été équipé de Teen Challenge, vous savez, l'œuvre de David Wilkerson. 7 ans de consécration dans cette œuvre. Mais quand ça commençait à sentir le pourri, avec une équipe de dirigeants français, c'était plus les Américains qui dirigeaient, c'était une équipe de Français, puis ça commençait à être, ça sentait le médiocre, le pourri, le naze. Je me suis taillé. J'ai réinventé mes repères. Ensuite, Le Cossec, le pasteur Le Cossec, il m'a engagé dans une œuvre qui s'appelait New Life. On avait un petit château à Longue-Rue, le château rouge. J'étais regardé, il est encore en vente. Il est encore en vente. 3 ans, je me suis consacré avec ma femme dans cette œuvre. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'on se moquait de nous là-dedans. On se moquait de nous. Ben, je me suis taillé. J'ai réinventé mes repères. J'ai acheté un château avec mon épouse. Et les frères et sœurs étaient des actionnaires. On a vécu 26 ans de vie communautaire là, c'était formidable. Et puis ça a commencé à sentir mauvais. J'ai pas dit... Oui, au début, je dis, oh, c'est pas grave, je mettais ça sous le tapis. Jusqu'au jour où c'est devenu trop important, je dis, on fout le camp. J'ai réinventé mes repères. Et qui même me suivent. Maintenant, on est dans le sud-ouest. Et ça fait 5 ans qu'on a une vie de paix, une vie tranquille, une vie paisible, une vie de réussite, une vie de bénédiction. On est content, on est bien. C'est pas vrai qu'on est bien ? Très bien. Hier encore, on a rencontré Monsieur le maire, on a fait des projets, c'est extraordinaire, on a vraiment une belle vie. Frères et sœurs, il n'y a rien d'insurmontable, mais ne mettez pas vos souffrances, vos frustrations sous la carpette. Utilisez le ressort. Tonging. Comment il s'appelait ? Il y avait un petit dessin animé. Comment c'était ? Pollux, il y avait un...
Zébulon.
Doing, doing, doing. Moi, je suis en mouvement. C'est le cours de la vie. Marcher sur le chemin qui est Jésus, c'est salutaire. Il implique une plongée dans le réel qui change tout le temps. Il implique un plongeon dans la vérité qui s'ouvre devant nous et qui n'est pas toujours, qui n'est pas quelque chose de statique. On apprend toujours, c'est intéressant, c'est passionnant. Ça change, c'est un mouvement. Alors, ça ne veut pas dire que la vérité d'hier n'est plus la vérité d'aujourd'hui, mais simplement la vérité s'approfondit. Alors, voyant que c'est une plus grande perfection que de connaître la vérité, je ne reste pas bloqué dans un truc qui m'ennuie juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'était ma première expérience. Je suis resté dans cet apprentissage au sanglier décorateur pour faire plaisir à ma maman. Mais là, j'ai appris quelque chose. Ma vie, c'est ma vie. Votre vie, c'est votre vie. Je ne veux pas rester dans un endroit où il y a des gens autoritaires et jaloux qui me pourrissent la vie. Dans l'heure là où on était, à Tinchalange, on avait des poules. C'était un chrétien qui nous avait donné des poules. Et tous les soirs, quand on rentrait du café-bar, vers 1h du matin, on crevait de faim, on était des jeunes. On avait 20 ans, 23, 24 ans. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Bon, on allait voir un poulailler, on prenait des poules, on se faisait des omelettes. Mais il y avait un ancien qui était là. Il faut être soumis aux anciens. Hein. Ouais. C'est ce que la Bible dit. Normalement, on devrait être soumis aux anciens. Mais il y avait un ancien qui était là et qui avait pondu un règlement. On a droit à 2 œufs par jour par équipier. Mais comme les poules nous en faisaient tellement des œufs, on se faisait des omelettes géantes où on mettait 3-4 œufs par personne. Et ils nous pourrissaient tous les soirs l'ambiance avec ça. C'était terrible. Même un jour, enfin, un soir, il y en a plusieurs, ils en sont venus aux mains, ils se sont cognés dessus. Vous vous rendez compte, dans une œuvre chrétienne, ils se sont cognés copieusement dessus. Moi, je regardais ça, je rigolais, je bouffais mon omelette. Bon. Puis voilà, je me mets en mouvement. Je cache pas ça sous les carpettes en disant « Oh, ben c'est pas grave. » Si c'est grave, quelqu'un qui est bête au point de laisser pourrir des œufs plutôt qu'on les mange, tout simplement parce qu'il y a un règlement qui dit que... Non, ben attends, il faut pas être bête. J'allume la lumière, je regarde bien en face le casse-pied, je pèse le pour et le contre, et je me casse si je vois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je ne me suis pas cassé que à cause des œufs, hein. Ça c'est juste un exemple. Il y avait d'autres choses qui étaient complètement invraisemblables. Ne vous illusionnez pas, un chasseur, il veut la mort du lapin. Et il y a des gens, ça leur plaît de vous pourrir la vie, de vous détruire, ils font des choses qui détruisent votre vie, mais mettez une distance. Par amour ou par pitié pour vous. C'est bien d'aimer les gens, c'est bien d'avoir pitié des gens, mais si ça vous ruine, vous. Je me suis mis en marche et chaque fois, ça a été salutaire. Ça contribue à mon bien. J'ai rencontré des chrétiens, mais bornés de chez bornés. Vous savez, le genre 2 plus 2, ça fait 3. J'en connaissais une. Un jour, elle arrive. Elle a un fils qui a 18-19 ans. C'était il y a des années, elle est peut-être morte maintenant.
Mon fils est un abominable. Mon fils est un abominable et va aller en enfer.
Alors on lui demande pourquoi.
Il couche avec le chat et la Bible dit qu'il ne faut pas coucher avec un animal.
Borné, m'avez-vous expliqué?
Non, c'est écrit qu'il ne faut pas coucher avec un animal. Mon fils, il couche avec un chat.
Oui, il avait un chat au pied du lit qui dormait. Vous n'avez pas. Ceux qui ont un chat, ça ne vous arrive pas de le trouver le matin vous... Borné, 2 plus 2 égale 3. Borné. Ni, 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 ni. Longtemps, je n'ai pas osé leur dire aux chrétiens bornés qu'ils avaient tort parce que je ne voulais pas faire de vagues, alors je mettais sous la carpette. Parce que c'était pas bien. Parce que j'en souffrais. Je suis entouré d'une bande de crétins, c'est pas possible, c'est infernal. J'en souffrais et c'est inutile. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, ces chrétiens bornés que j'ai connus dans les années 70, ceux qui sont encore vivants, ils sont encore des chrétiens bornés aujourd'hui en 2020. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Mais heureusement que je me suis taillé. Indécrottable. Mais pas moi, pas moi. Un jour, j'ai décidé de ne plus les garder sous ma carpette au fond de mon âme. J'ai foutu un grand coup de balai et voilà. Et c'est tout. Ça fait un peu mal sur le moment. On se dit, je suis pas gentil. Si, il faut être gentil avec soi-même, déjà premièrement. Si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres? Si tu acceptes qu'on te fasse du mal, tout ça, c'est pas une preuve d'amour, ça. Ça va un moment. Il faut être patient, mais ça y a un moment. Même Dieu, il y a un moment où il va tout foutre en l'air. Mais il aura raison. Pour le moment, il est patient. Mais il y a un jour, il va tout casser. Il y a un ras-le-bol de cacher tout sous le... Il a tout mis nos péchés sur Jésus. Mais un jour, on va passer en jugement. Ceux qui auront méprisé ça, c'est... Vous comprenez, frères et sœurs? Et il faut regarder comment Dieu fait. Et nous, on n'a pas l'éternité. On a juste, 60, 80 ans pour faire nos choix de vie. Donc, pas de carpette, des ressorts. Moi, je croyais vraiment que c'était Dieu qui m'avait conduit pour cette formation pastorale des assemblées de Dieu. Et c'était vrai, c'est Dieu qui m'avait conduit. Mais c'était juste pour une formation, c'était pour un moment, pour que j'apprenne des choses. C'était pas pour que je m'embourgeoise là-dedans. Au milieu de tous ces mensonges, de ces intrigues pastorales, ça me rongeait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai renoncé? Est-ce que j'ai mis toutes ces souffrances et tous ces inconforts sous la carpette? Non, je me suis mis en mouvement vers ce qui est mieux. Vers ce qui est mieux. Je n'ai jamais renoncé. J'ai juste bougé. J'ai juste bougé. La vie... C'est Jésus. Et Jésus, il est dynamique. Il n'est pas statique. Il a dit, suis-moi, on marche derrière, on suit. La colonne de feu ou la colonne de nuée dans le désert avec Moïse, elle avançait. Quand elle s'arrêtait, il fallait s'arrêter. Puis donc, elle se remettait en marche, il fallait plier les bagages et les valises, puis il fallait suivre. La vie avec Jésus, c'est une vie dynamique. Et ma vie aussi, elle est dynamique parce que je suis vivant de la vie de Jésus. La preuve, je ne suis pas le même Michel Janton que le Michel Janton qui avait 2 ans. J'ai avancé sur le chemin, heureusement. Vous savez, une eau qui stagne, elle finit par puer. Il faut que ça bouge. La mer morte, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poisson dans la mer morte? Parce qu'il y a de l'eau qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Là, ça finit par mourir. Alors bon, j'ai été touché dans ma vie, j'étais bouleversé, j'ai même pleuré sur ce chemin, tout ça. Mais je suis resté debout parce que je rentre directement en rapport avec ce qui est, avec la réalité. Faites ça dans votre vie. Ne restez pas prostré en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça ?» La vérité, c'est que la vie immuable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour Dieu lui-même, ni pour les autres. Tout est toujours en mouvement, ça bouge. La vie, c'est mouvement. Hier soir, j'étais dans mon bureau et il y a un frère qui est venu me voir. Et on a bu un petit martini, et c'était un moment que nous avons passé qui était unique. Ça arrive souvent hein, que quelqu'un vienne pour boire un petit pot chez moi dans mon bureau, mais là c'était un moment unique, et chaque moment est un moment unique. Il faut l'apprécier, parce que ce sont des moments qui ne sont pas éternels, ça bouge. Là je ne suis plus dans mon bureau, je suis plus avec mon verre de martini, je ne suis plus avec le même frère, ça a changé, la situation a changé. Les choses changent tout le temps. Mes frères et sœurs, la vie, heureusement, elle est instable. Mais bien sûr, mais c'est super que ça soit instable. Les choses ne cessent pas de se recréer, de se déployer. On tisse de nouvelles rencontres. Il y a des ruptures qui se produisent. Voilà, les fleurs poussent, elles fanent. Là, en ce moment, on a encore des fleurs qui résistent parce qu'il y a encore un peu de soleil, mais il y a plein de plantes qui sont mortes, c'est fini. Là, les feuilles jaunissent, mais ça va revenir bientôt. Mais ça change, et puis alors, ben, c'est très bien. Mon Dieu, que la vie serait pénible, ennuyeuse si c'était tout le temps l'été. Non? Heureusement, il y a des saisons différentes. Il y en a qui aiment le printemps, il y en a qui... Moi, j'aime pas l'hiver. Mais il y a aussi des bonnes choses l'hiver, il y a mon anniversaire, il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a des trucs sympas aussi. D'ailleurs, dans notre communauté, c'est rigolo, c'est... Là, il y en a beaucoup qui sont nés en hiver. Et donc, on fait plein de fêtes, c'est sympa. À côté du fait qu'il fait froid, qu'il fait un peu gris, que, voilà. Mais il y a du bon dans tout. Mais ce qui n'est pas bon, il ne faut pas le mettre sous le tapis et puis attendre que ça... Non. Vivez en mouvement. C'est comme ça que vous aimerez la vie. C'est comme ça que vous trouverez la vie intéressante. C'est comme ça que vous aurez des satisfactions dans votre vie. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais chez le pasteur Bouchami et j'étais candidat au ministère. Je n'avais pas encore fait ma théologie. J'étais là et je regardais. Puis je voyais toutes ces grands-mères, ces grands-pères, parce que la plupart c'était des grands-pères et des grands-mères, et puis il y avait quelques personnes qui étaient dans la quarantaine avec leurs petits, leurs gamins qui s'ennuyaient là-dedans. Puis je disais, quelle horreur, je vais vivre toute ma vie là-dedans. Je vais faire ça tout le temps. Non, c'est pas possible, je peux pas. Et heureusement que j'ai eu cette réflexion, parce que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je serai un vieux grand-père assis, en train d'écouter le bon pasteur qui prêche, puis ensuite je rentrerai chez moi, et puis voilà, je mangerai le bout de gras avec ma femme, et puis l'après-midi on regarderait, je ne sais même pas ce qu'il y a à la télé le dimanche après-midi. Moi je suis resté bloqué avec l'idée que c'est Jacques Martin, mais ça fait des années que ça n'existe plus Jacques Martin. Hein? Tout change. Changez. Ayez du ressort, bougez. Ne restez pas coincés dans des trucs négatifs. Des fois, les trucs négatifs, ils viennent des autres. Mettez une distance. C'est pas méchant. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Un jour, il y a des religieux qui ont voulu arrêter Jésus. Jésus en a entendu parler. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Ben, il s'est taillé. Il a pris un autre chemin, il s'est éloigné. Voilà, ben, c'est bien, il a eu du ressort. Il n'a pas dit, oh, mais de toute façon, je suis fils de Dieu, il ne peut rien m'arriver. Et puis, c'est pas si grave. Non, il s'est taillé ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vais vous dire ce matin. Ne soyez pas fataliste, c'est bête. Ne soyez pas en disant, ben voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous pouvez réagir, réagissez. Faites des projets, ayez des projets. Nous, on a des tas de projets ici. Et c'est ce qui fait que on est content, on est solidaire, on est tous participants, on est content, c'est bien. Parce que dans un an, ça sera plus comme aujourd'hui. Et dans 10 ans, ça sera encore autrement. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Sinon, la vie est ennuyeuse. Je dis toujours à ma femme, tiens, c'est encore vendredi. C'est souvent le vendredi que je me rends compte que c'est... Mais ça n'arrête pas d'être vendredi. Ça se répète. Bougez les choses, changez les habitudes, cassez tout ça, faites autre chose, intéressez-vous à quelque chose dans votre commune, je sais pas, il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais pensé faire, des sociétés que vous n'avez jamais fréquentées, une chorale, un club de couture, je sais pas quoi. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, ça va changer votre vie, et dans ces clubs, il y a aussi des casse-pieds, ben vous les évitez, c'est tout. Et puis vous apprenez des choses, et vous allez pouvoir apprendre des choses à certaines personnes, mais bougez, ne restez pas comme ça planté, à attendre que ça se passe en mettant vos souffrances sous la carpette au nom de Jésus. Faites ce que je vous dis et vous verrez, ça va changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de garder mes frères et sœurs et de les aider à bien saisir combien tu es grand et tu es sage et que tu nous recommandes toujours le meilleur. Merci Jésus. Amen. Au revoir, à bientôt.